La dernière fois, donc comme introduction, nous avons essayé de voir quelle est la place des vertus morales dans notre marche vers Dieu. Parce que, alors la vie théologale, on la voit bien, à la fois l'espérance et la charité, donc c'est ces capacités spirituelles, surnaturelles qui nous sont communiquées par Dieu via les sacrements, mais l'être humain est une unité. Et c'est ça que j'ai aussi essayé de montrer la dernière fois. C'est que l'être humain, c'est pas une âme qui serait perdue dans un corps. Ce n'est pas un corps qui est limité à ses composantes biologiques et chimiques. C'est cette alliance, alors que la philosophie étudie, mais cette alliance assez mystérieuse, assez impressionnante, d'une âme et d'un corps. Voilà. Et deux, tant que nous sommes dans notre condition incarnée, nous ne pouvons pas penser sans un cerveau. C'est pas possible. Et donc, nous dépendons de frère Lanne, pour reprendre l'expression de saint François d'Assise, et que même ce que nous manifestons, nous le manifestons par notre corps. Et un corps, une âme, une humanité, c'est pas simplement donc une intelligence et une volonté, une âme, mais c'est aussi des passions, c'est aussi une vie affective, c'est aussi un panel extrêmement riche de vie sentimentale et affective, qu'il ne s'agit pas du tout de nier, dans une sorte de rationalisme au fond inhumain et froid, mais qu'il s'agit en fait d'intégrer. La morale chrétienne est une morale d'intégration. Pour vous citer saint Thomas d'Aquin, certes l'intelligence et la volonté et la liberté doivent exercer une certaine autorité sur les passions de l'âme, la colère, vous savez, l'irascible et le concupiscible, tout ce qui est de l'ordre du désir. Spontanément, je désire le bien qui se manifeste à moi. Et si ce bien me paraît difficile à obtenir, je vais mobiliser mon affectivité pour l'obtenir. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'irascible. Et comme le rappelle le catéchisme de l'Église catholique, les passions de l'âme, parce qu'elles ont toujours, on les appelle passions parce qu'elles ont toujours en nous une traduction physiologique, organique. Eh bien, ces passions de l'âme sont moralement neutres. Et justement, c'est le rôle de l'intelligence et de la volonté de les orienter vers le bien. Et d'avoir sur elles, nous dit saint Thomas, non pas une autorité despotique, dictatoriale, mais une autorité politique. Alors je sais très bien parce qu'on va parler de la sagesse politique pendant et de la prudence politique pendant ce week-end. Mais voilà, on comprend bien l'analogie. C'est-à-dire que c'est très important de se connaître pour pouvoir, justement, et dans le choix prudentiel, c'est essentiel, de se connaître pour pouvoir atteindre sa fin, sa finalité. Voilà, c'était ce que nous avons essayé de poser la dernière fois. Alors effectivement, on ne va pas non plus séparer l'homme, on va distinguer, mais on ne va pas se séparer. Il ne s'agit pas, par exemple, d'être un homme vertueux au point de vue des vertus naturelles ou des vertus cardinales, puis après on s'occupe de la vie théologale. Non, dès qu'on est baptisé et confirmé, on reçoit la plénitude de la vie divine, donc la foi, l'espérance et la charité. Mais ce sont des vertus, et les vertus, ça c'est aussi un autre élément très important, c'est des capacités, alors le terme vertu est un peu piégé, mais bon, employons-le, parce que de toute façon, on n'a pas trouvé mieux. Mais la vertu, en latin, c'est la force, c'est ces dispositions spirituelles en moi qui sont à l'état incoatif, c'est-à-dire qu'ils n'existent que si je les excite, que si je les éduque. Alors l'exemple de base, c'est le langage. On a tous en nous la capacité de parler, et c' 'est très... Vous prenez un enfant chinois, si vous le mettez dans un contexte occidental, quand j'étais aumônier scout, il y avait un enfant laotien, et qui avait été adopté, mais vraiment tout bébé. Alors, c'était très drôle, parce qu'en plus, il y avait vraiment les traits laotiens très très marqués, et il parlait français avec l'accent du midi, donc ça faisait un peu surréaliste. Mais voilà, ça veut dire qu'en nous, cette capacité fondamentale d'apprendre une langue à partir du moment où c'est stimulé. On sait très bien que les enfants, je ne sais pas si vous avez vu le film de François Truffaut, François ou l'enfant sauvage, vous connaissez tous l'histoire de Mowgli. C'est une histoire qui arrive assez régulièrement, en gros une fois par siècle, on retrouve un enfant, et c'est ce que raconte le film de Truffaut, un enfant qui a été élevé, qui a été abandonné très tôt, et qui, par les hasards de la vie, a pu survivre, on est que dans le résumé de l'épisode précédent. Et il a pu survivre au contact des animaux. Mais une fois qu'il est entré dans la communauté humaine, donc à 10-11 ans, ces enfants-là n'ont jamais pu apprendre à parler. Hein, parce qu'il y avait en eux cette capacité, mais comme elle n'a pas été excitée, éduquée, c'est comme un membre. Hein, si on ne s'en sert pas, au bout d'un certain temps, il va s'endolorir. Et puis, si on ne se sert jamais de son bras, ça va devenir un membre mort. Hein, je vais avoir mon bras, mais il ne me servira à rien. Eh bien, la vertu, alors ça c'est vrai de ce qu'on appelle les vertus intellectuelles, c'est qu'elles ont besoin d'être stimulées. Et quand elles ne sont pas stimulées par l'éducation, eh bien, elles se perdent un peu dans le sable. Et c'est dommage. C'est pour ça que l'éducation est si importante. Hein, c'était la réflexion que Saint-Exupéry faisait, qui a été repris par Gilbert Cesbron dans un de ses romans. Hein, vous savez, Saint-Exupéry voyage dans les Andes, je crois, et puis voyant ses enfants complètement abandonnés, donc n'ayant aucune éducation, et se dit, c'est Mozart qu'on assassine. Hein, parce que peut-être que parmi ses enfants, il y a potentiellement... Alors bon, si je puis dire, le bon Dieu s'arrange avec tout ça, hein, mais c'est pour vous dire que voilà, il y a vraiment en l'homme des potentialités qui ont besoin pour exister et bien d'être éduquées. Voilà. Et ça, c'est vrai tant des vertus morales, alors c'est vrai des vertus intellectuelles, pour apprendre quelque chose, bon, même si on dit que certains ont quand même des prédispositions plus ou moins grandes pour tel type de savoir, mais il y a certains pédagogues et éducateurs qui disent non, on est tous, il suffit d'être bien éduqués, mais on est tous capables d'atteindre le niveau d'Einstein. Bon, c'est vrai encore plus, et là c'est beaucoup plus important, parce que on n'a pas tous besoin d'être agrégé de mathématiques ou de physique, mais on a tous besoin de réussir notre vie. Et c'est justement ces vertus, les vertus morales que nous recevons tous, donc de force, tempérance, justice, prudence, et qui n'existent en nous que si on les éduque. Et pour la vie théologale, parce que je veux aussi faire des allers-retours, la foi, l'espérance et la charité, la source est différente, parce que les vertus morales, nous les recevons tous, encore une fois, parce que nous avons une nature humaine. Les vertus théologales nous sont données donc par la grâce, par la vie sacramentelle. Mais dans son mode d'exercice, c'est exactement la même chose. Donc comment on grandit dans la foi, dans l'espérance et dans la charité? Eh bien, c'est justement en multipliant les actes de foi, d'espérance et de charité. Voilà un petit peu pour orienter un petit peu notre marche. Autrement dit, le salut n'est pas pour nous d'abord dans les vertus spéculatives, hein, de savoir qui est Dieu, même si c'est très important, puisque c'est la foi qui est à l'origine de ça, mais dans les vertus, justement, pratiques, de mettre en œuvre ce que nous avons reçu. Si vous lisez la Bible, vous serez sans doute très frappé par, effectivement, une anthropologie, donc une présentation du mystère de l'homme très unifiée. On voit vraiment que l'homme, c'est une unité. Même si les écrits sur la sagesse vont avoir une très grande importance. Mais toute la Bible, en fait, est une invitation à acquérir justement parmi les vertus la prudence pour conformer notre vie à la sagesse divine qui nous est révélée. Voilà. Ce qui est prudent, eh bien, c'est d'obéir à la parole du Seigneur, parce qu'on peut penser qu'il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Alors, attention, ce n'est pas du tout une obéissance aveugle. Nous avons l'exemple de la Vierge Marie, quand il lui est révélé ce qui était impensable pour elle, mais qu'elle serait la mère du Sauveur, comment cela se fera-t-il? C'est une constante, et on voit ça pour la Vierge Marie, on voit ça pour Saint-Joseph, on voit ça pour tous les saints. Dieu donne toujours le degré d'intelligence suffisante à ceux qu'il appelle pour accomplir une mission. Même si cette mission dépasse de beaucoup, justement, leur capacité naturelle. Mais Dieu ne nous utilise pas comme des instruments, justement. Ou plutôt, il nous utilise, ou il nous appelle à vivre comme des instruments responsables et libres. Alors, dans l'Ancien Testament, il y a spécifiquement un enseignement de sagesse. Alors, je vous cite quelques livres de la Bible, comme par exemple le livre des Proverbes, ou encore le livre de la sagesse, sous-entendu la sagesse de Salomon, l'Ecclésiaste, qu'on appelle aussi le Coëlète, vanité des vanités, tout est vanité, tout est fumée, ou encore l'Ecclésiastique, qu'on appelle aussi le livre de Ben Sira le Sage. Mais en fait, ce thème de la sagesse et de la prudence, justement, traverse tout l'Ancien Testament. Si on reprend le Pentateuque, donc les cinq premiers livres de la Bible, alors surtout à partir de l'Exode, on se rend bien compte que ce qui est proposé à Israël, c'est une alliance. Et Dieu va faire alliance avec son peuple en, le, en le libérant d'une situation de mort et d'esclavage, en lui donnant la loi et en l'accompagnant durant tout le temps de la traversée du désert pour parvenir au don de la vie éternelle. Ça, c'est ce que Dieu réalise pour son peuple. Mais comme c'est un mystère d'alliance, on comprend bien qu'il faut qu'il y ait une réciprocité. Et cette réciprocité, c'est justement qu'est-ce qui est demandé à Israël ? C'est la fidélité. Cette fidélité à la sagesse qui lui a été révélée. Et puis je crois que c'est dans le Deutéronome où Moïse dit de la part de Dieu, mais il n'y a pas de peuple, les autres peuples diront, il n'y a pas de peuple plus sage qu'Israël. Alors Israël, c'est pas la Grèce de Socrate ou de Platon, c'est pas Rome de Cicéron ou de Sulpice Sévère, mais donc c'est pas le fruit de sa propre réflexion ou de son propre génie philosophique, à la différence de ses autres expériences, mais c'est parce que cette sagesse de Dieu lui a été révélée. Dieu s'est adressé à ce et a fait alliance et a constitué ce peuple pour en faire le peuple le plus sage. Et aussi intelligent que les Grecs étaient, ben, vous savez que beaucoup croyaient encore au polythéisme. La caractéristique d'Israël, c'est l'affirmation de l'existence d'un Dieu unique. Voilà. En ça, il se montre sage, mais parce que cela lui a été révélé. Et puis nous savons aussi, et justement aussi les prophètes, puisque Dieu envoie des prophètes à son peuple, spécialement lorsqu'il s'écarte du bon chemin. Les prophètes, ce sont un peu les champions de la fidélité à la loi de Dieu. Et justement, les prophètes ne cessent de dire, mais reviens à la source de la sagesse. Je crois que c'est le prophète Jérémie. Tu t'es creusé des citernes vides qui perdent l'eau. Tu m'as abandonné, moi, la source d'eau vive. On sait ce que ça signifie, l'eau vive dans un désert. Pour te creuser des citernes qui peuvent même pas tenir l'eau. Et c'est toujours la déception, c'est toujours la vanité, c'est toujours quand on se tourne vers d'autres dieux, c'est-à-dire quand on n'est pas fidèle à sa vocation. Donc la sagesse, effectivement, c'est de retrouver le chemin de sa vocation. Et ces temps liturgiques, là nous vivons le temps de l'Avent, dans quelques semaines nous vivons le temps du Carême, mais c'est justement ces temps privilégiés qui nous sont donnés pour revenir à l'essentiel, pour revenir à cette sagesse qui ne trompe pas. Et au fond, pour gagner du temps. Le fait pour vous de prendre ce temps... je pense que vous avez tous des emplois du temps très chargés, mais c'est pas une perte de temps, parce que c'est justement en quelque sorte revenir sur l'essentiel, et c'est un acte de prudence, parce que quand on revient à l'essentiel, eh bien tout le reste se met en place par la suite. Mais voilà, il y a cette à cause du péché originel en nous et ses conséquences, il y a toujours ce à quoi bon, on a toujours des tas de bonnes raisons justement qui vont contre la vertu de prudence, mais ça on va le voir. Dans le Nouveau Testament, l'Évangile est bien une sagesse, parce que Jésus est la sagesse de Dieu incarnée. Et on connaît bien les épisodes où, justement, Jésus nous invite à la prudence, à la sagesse. Alors, la croix des prédicateurs, c'est, vous savez, un intendant malhonnête, qui pour éviter d'être... Enfin, il sait qu'il va être mis à la porte par son maître, et donc il falsifie les comptes, il fait des ristournes aux clients de son maître, Et en se disant comme ça, quand je serai mis à la porte, bon, à mon avis c'est pas très réaliste, mais quand je serai mis à la porte, ils seront gentils avec moi, hein, parce que je peux pas travailler, mendier, j'aurai trop honte. Bon. Et le maître, apprenant la filouterie de son intendant, le félicite. Et on voit bien, alors évidemment là il poursuit une fin qui est mauvaise. On verra que dans l'acte de prudence, il faut poursuivre une fin qui est bonne. Mais au moins, qui veut la fin veut les moyens. C'est-à-dire que avec astuce. Il cherche à se libérer d'une situation très, très pénible. Et d'ailleurs, Jésus lui-même recommande à ses apôtres, quand il les envoie en mission, par exemple en Matthieu 10, 16, Jésus recommande à ses disciples la candeur des colombes et la prudence des serpents. Il leur recommande d'être, dans le grec du Nouveau Testament, phronikoi. Phronimos en grec, c'est justement la prudence. C'est dans le grec classique, pour parler de la prudence, c'est justement ce terme-là qu'on emploie. Mais vous voyez, c'est une réalité un peu ambiguë. On sait aussi que le démon l'appelle le malin. Parce qu'il sait effectivement, dans une finalité qui est mauvaise, s'appuyer sur des choses qui sont bonnes, vous serez comme des dieux, mais pour obtenir une fin qui est mauvaise. Mais le christianisme n'est pas non plus un angélisme. Vous savez ce que disait Peggy à propos des Kantiens, ils ont les mains propres mais ils n'ont pas de mains. C'est que effectivement, il y a la loi de l'incarnation qui doit jouer. Et nos choix, eh bien justement, interviennent dans un monde qui est un petit peu compliqué avec des réalités très très mêlées. Mais ça, on le verra demain. Ou encore, Jésus finit ce grand discours sur la montagne, les chapitres 5 à 7 en Saint Matthieu, le discours sur la montagne où Jésus se présente à nous comme le nouveau Moïse. Et ça commence par les béatitudes. Et puis ça se termine par celui qui écoute mes paroles et qui les met en pratique. Alors, parfois des époux choisissent ça pour leur messe de mariage. Ressemble à un homme sage qui a construit sa maison sur le roc. Et celui qui écoute ma parole et ne la met pas en pratique ressemble à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Donc effectivement, à la première tempête, tout s'est écroulé. Voilà, vous voyez, Jésus appelle à l'intelligence. Il nous appelle, mais il va nous dire, écoute, prends les moyens. Fais fonctionner ton intelligence. Et ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'appliquer en quelque sorte bêtement ce que nous dit l'Évangile, mais au contraire de participer à cette sagesse divine qui nous donne de poser les bons choix. Alors il y a une partie qui est donnée, et puis il y a une partie qu'on doit travailler. Parce qu'encore une fois, la vertu a besoin d'efforts et d'entraînement. Et puis si on se plante, c'est pas très grave, parce qu'on grandit en humilité. Et l'humilité, c'est une vertu qui conduit tout droit au paradis, donc de toute façon, on est gagnant. Mais en revanche, la persévérance dans l'échec doit aussi quand même nous poser question. C'est qu'on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je sais plus qui disait, mais les gens qui sont de bonne volonté, ils sont souvent de mauvaise foi. Mais il y a aussi parfois une espèce de... Mais ça, on y reviendra aussi de... Je sais pas comment appeler, de fidéisme ou de surnaturalisme mal placé, qui fait qu'on ne distingue pas suffisamment les ordres. Je pense que vous êtes tout comme moi. Si vous êtes malade, si vous devez subir une opération, vous préférez être opéré par un médecin, un chirurgien excellent, même si par ailleurs il mène une vie de patachon et épouvantable, etc., que d'être opéré par un chirurgien très pieux qui dit son chapelet tous les jours, mais qui se plante 3 fois sur 4. Quoi. C'est parce que justement, on n'est pas dans le même niveau de réalité. Voilà, et donc, on va quand même plutôt chercher pour tout ce qui appartient à l'ordre de la nature, les gens un petit peu compétents. Maintenant, le fait pour un médecin, effectivement, à compétence égale, mais d'avoir sur ses malades un regard chrétien, y compris pour les malades, je pense que ça change quelque chose. Dans les formules d'engagement de l'ordre de Malte, il est dit aux hospitaliers, quand vous vous penchez sur le Christ, en plus vous penchez parce que vous portez la croix du Christ, quand vous penchez vers les malades qui reconnaissent en vous le Christ. C'est important, si je puis dire, de tenir les deux. Mais voilà, le Christ nous appelle à bâtir notre maison sur le roc, et pour construire sa maison sur le roc, eh bien c'est une œuvre de discernement, c'est une œuvre de prudence qu'il faut mener, et donc tout simplement pour construire sa vie. D'ailleurs, le maître établit sur sa maison un intendant sage et prudent, en Saint Matthieu chapitre 24, verset 45, qui donne à chacun sa part de grain au moment voulu. C'est souvent une image qui est employée. Le Christ s'en va, mais il laisse ses intendants. Et c'est d'ailleurs, cette antienne de la messe est utilisée pour la messe des pasteurs. Justement, quand on célèbre un pasteur, qu'est-ce qu'on demande à un pasteur, à un évêque, à un responsable de communauté? C'est pas de se croire le chef, c'est parce que lui aussi il est serviteur du Christ, mais il représente aussi au sein de la communauté le Christ serviteur qui donne à chacun sa tâche et sa mission. Et c'est important qu'il le fasse aussi, parce qu'il y a, bien sûr, le cléricalisme, l'autoritarisme, c'est très dangereux, mais il ne faudrait pas qu'on le paye toujours en allant dans un sens, par justement une absence d'autorité. Dans l'Église, il y a aussi une autorité, alors qui est très conditionnée par à la fois le droit révélé, le droit naturel, etc. Un supérieur ne peut pas demander n'importe quoi, mais il n'empêche que dans l'Église, il y a toujours un principe d'autorité et de gouvernement, d'exercice de l'autorité. Voilà. Et non pas de gouvernance, comme on l'entend maintenant, mais ça c'est parce qu'il y a une mauvaise influence du monde de l'économie sur l'Église. Bon, je ferme la parenthèse, on enlèvera ça de l'enregistrement. Chez saint Paul, on voit très bien qu'il y a chez l'apôtre toujours un enseignement dogmatique. C'est-à-dire qu'il va présenter aux chrétiens à qui s'adresse le mystère de la foi, qui est le Christ, comment nous participons à ce mystère, qu'est-ce que la grâce, et puis il va toujours tirer de là des conséquences pratiques. Et dans les lettres de saint Paul, on distingue ces parties-là, mais on voit que c'est très mêlé. Hein, je vous exhorte, mes frères. Le texte sur la charité, le texte sur tous ces textes que nous connaissons, eh bien, c'est toujours à l'occasion. Ou l'inverse est aussi vrai, d'ailleurs. Quand, par exemple, dans l'Épître aux Philippiens, saint Paul exhorte les disciples à l'humilité, il y a ce texte extraordinaire, c'est d'ailleurs un texte qu'il a sans doute repris, qui n'est pas de lui, hein, Philippiens 2, hein, le Christ Jésus lui-même, qui était de condition divine, n'a pas exigé d'être traité à l'égal de Dieu, mais il s'est anéanti prenant la condition d'esclave. Donc, vous voyez comment une simple exhortation morale donne l'occasion d'un développement dogmatique qui continue aujourd'hui à éclairer l'Église et les chrétiens. Et de même, nous sommes invités par saint Paul à nous ouvrir à une sagesse supérieure, celle de Dieu, même si elle se manifeste, cette sagesse, de manière assez mystérieuse et paradoxale, dans le mystère de la croix, par exemple, qui peut paraître une folie, mais qui en fait est une sagesse supérieure de Dieu. Donc ça veut dire que dans la prudence, eh bien, il faut aussi intégrer cette dimension-là. Nous sommes invités à nous ouvrir à cette lumière, à cette nouvelle intelligence qui va transformer nos vies. Hein. Vous pouvez voir Éphésiens 4, les versets 17 à 24. Et justement, c'est la charité qui aboutit à la connaissance et à l'intelligence pour discerner ce qui est le meilleur et pour être pur et irréprochable jusqu'à la venue du Seigneur. C'est la première lettre, la lettre aux Philippiens, chapitre 1, versets 9 à 10. Saint Paul s'adresse à des communautés qui sont, on comprend bien, immergées dans un monde païen. Et on voit, il traite aussi des questions très concrète, le culte aux idoles, les viandes qui ont été sacrifiées en invoquant le nom des dieux, est-ce qu'on peut en manger ou non, mais vous voyez, il y avait, mais saint Paul ne va pas d'abord sortir un traité de morale en disant ça vous avez le droit, ça vous avez le droit, ça vous n'avez pas le droit. Il va toujours partir du mystère chrétien et dire, ben voilà, ouvrez-vous à cette intelligence supérieure qui vient de Dieu, et après, ben, vous serez capable de poser des choix, des discernements. Et ça, c'est le principe même de la morale chrétienne. Autrement dit, est sage celui qui ne se contente pas de savoir, mais qui applique ce savoir dans les circonstances de sa vie. Alors voilà pourquoi c'est là. Et c'est pour ça qu'on commence cette étude des vertus par la prudence, parce que la prudence est la vertu la plus intellectuelle. C'est celle où les principes généraux de la vie pratique, de l'intelligence pratique, ont le plus à faire. Mais il ne suffit pas. On a tous fait cette expérience-là, il ne suffit pas d'avoir compris pour bien faire. Après, justement, il y a ce passage à l'action. Et c'est là où se situe la version de prudence. Mais si, la vertu de prudence. Mais si on n'a pas fait, si on ne voit pas clairement les enjeux, et c'est peut-être aussi une des spécificités du monde d'aujourd'hui, c'est que justement, on ne voit plus la finalité. Comme au fond, on ne sait plus très bien quelle réponse présenter, eh bien le mieux, c'est de dire qu'il n'y a pas de réponse. Ce n'est pas intéressant. Le mieux, c'est de vivre du mieux qu'on peut, puis après, chacun se débrouille. Ça, c'est vraiment un aspect de la postmodernité, c'est qu'il n'y a plus de grands projets, alors qu'ils pouvaient être faux, qu'ils pouvaient être idéologiques, qu'ils pouvaient être même mortifères. Mais voilà, donc chacun est renvoyé à la propre construction de son être. Ça, c'est aussi une des conséquences de la postmodernité, c'est que c'est pour ça qu'on a tant de dépressifs aujourd'hui. C'est parce qu'au fond, chacun doit construire son identité. Pour reprendre l'expression de Jean-Paul Sartre, je suis mon projet. Pas du verbe suivre, justement. Ça, ce sera assez logique. Je suis, du verbe être. Je constitue moi-même mon projet. Ça, c'est très, très fatigant. Et c'est pratiquement irréalisable, à part pour quelques-uns. Mais voilà, quand la finalité n'est plus révélée, n'est plus communiquée, alors ici, il y a toujours des petites. Chacun continue à passer ses examens pour réussir professionnellement, fait des actions. C'est ça qui est impressionnant, c'est que en fait, toute notre vie est finalisée, mais on ne se pose jamais la question de la grande finalité, où ça nous mène. Dans la perspective chrétienne, c'est sûr, on est tous amenés à faire des choix, mais ces choix sont appelés à s'orienter vers ce choix fondamental qui est au fond, qui est la rencontre avec Dieu, qui est le bonheur. Le principe d'organisation de la morale chez saint Thomas d'Aquin, c'est la question du bonheur. C'est une morale du bonheur. Seulement après, saint Thomas va dire, oui, mais c'est quoi le bonheur? Est-ce que c'est les biens matériels? Non, ça va être bien, mais enfin, il n'y a pas que ça. Il dit, c'est même pas les biens spirituels. Le vrai bonheur, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça qu'on sera toujours sur cette terre des insatisfaits. Pas comme des gamins, colériques et qui n'ont pas ce qu'ils veulent, mais Dieu a mis en nous cette insatisfaction profonde qui ne pourra être satisfaite que dans le ciel. Et c'est ça qui fait que nous sommes libres, justement. C'est que par rapport à tout le reste, nous sommes libres. Parce que rien sur cette terre, y compris la plus merveilleuse des femmes ou les plus beaux des enfants, même si c'est source de grande joie, de grande satisfaction pour un père de famille et pour des parents, quand leurs enfants répondent à cet amour. Mais même ça, on peut avoir l'impression d'avoir tout réussi, mais il y a encore en nous cette incomplétude, parce que Dieu nous a créés en grâce, il nous a créés pour lui. Et donc, une fois qu'on sait ça, ça veut dire que, au fond, tous nos actes, y compris les actes les plus simples du quotidien, doivent être orientés vers cette finalité qui est Dieu lui-même. Et Dieu nous donne les moyens de le rejoindre. Oui ? Oui, alors c'est ça. Alors, oui, enfin, techniquement, non. Alors, sagesse, on voit plutôt une perspective d'ensemble. Prudence, c'est plutôt l'acte de prudence qui nous fera. Mais dans la Bible, la Bible n'est pas un précis de théologie morale ou de philosophie morale, donc les termes sont un petit peu. Alors, c'est important d'en saisir l'unité, mais c'est vrai qu'après, techniquement, je ne parlerai plus que de la prudence. Mais voilà, il est sage d'être prudent. Avec ceci près, c'est que la prudence, mais comme la vertu, le terme même de prudence est très galvaudé aujourd'hui. Bon, la sagesse, en gros, c'est on imagine le Bouddha, donc c'est guère mieux. Hein, c'est un peu celui qui s'en fiche un peu. Alors qu'au contraire, la perspective chrétienne, c'est tout m'intéresse. Hein, parce que je vois tout dans la lumière de la rédemption. Donc ce qui est caractéristique de... Du chrétien, si je puis dire, pour prendre l'expression bouddhiste, c'est d'être éveillé. Tout lui parle de Dieu, alors pas encore une fois de manière qui tendrait à oublier et le poids de la souffrance humaine et puis la réalité du monde créé aussi, mais tout quand même est dans cette finalité-là. Oui ?
Est-ce qu'au-delà de ça, de nos jours, la prudence, c'est même pas. C'est devenu assez
péjoratif. Oui.
Il y a une notion derrière qui se cache un peu de couardise.
Oui, tout à fait.
De rejet d'aller, si ce n'est à l'affrontement, du moins dans la bataille du quotidien. Oui. Et puis même d'un point de vue politique ou historique, on valorise des figures politiques, pour ne pas en citer des gens comme Poutine, qui ne font pas montre de prudence dans leurs actes, dans leur façon de.
Qui ça, j'ai pas entendu l'exemple
concret. Poutine, par exemple.
Ah oui, oui.
Qui est valorisé à l'extrême par certains. Et effectivement, c'est quelqu'un qui adore la prudence.
Oui, alors, effectivement, mais comme je vous l'ai dit, c'est toujours un peu compliqué, encore une fois, comme pour le terme vertu, ou bien, moi je crois qu'il faut essayer de redonner un peu de sens à ces mots, et voilà, mais c'est vrai qu'il y a aussi une espèce de prudence petit bourgeois, enfin, du gars qui, la fille qui veut pas s'engager, ça c'est très vrai. Mais justement, je voudrais vous redonner un petit peu le sens authentiquement chrétien, et il y a ce que saint Paul d'ailleurs appelle la prudence de la chair, hein, ça on en parlera demain, parce que, lorsqu'on voit la vertu, on voit toujours après les contrefaçons de la vertu, soit par défaut, soit par excès. Et justement, la vertu, c'est un équilibre, hein, in medio stat virtus. La vertu se situe au milieu, mais pas comme une espèce justement de moyenne. C'est plutôt un sommet c'est plutôt un sommet d'une montagne entre deux vallées, quoi. Il y a une excellence propre à la vertu, et c'est ce que je voudrais vous essayer de vous présenter. Voilà. Vous aviez. D'accord. Alors justement,
Quelle différence vous faites entre le regard chrétien entre prudence et raison ?
Ah ben justement, parce que la vertu de prudence est la vertu la plus intellectuelle qui soit, et que le bon Dieu ne nous demandera jamais de renier la moindre chose rationnelle dans notre vie. Mais il est normal que la raison pose qu'elle puisse être dépassée. Voilà, c'est ça le. Mais alors c'est tout le rapport. Par exemple, dans l'ordre de la connaissance, savoir que Dieu existe, normalement une intelligence qui fonctionne normalement est capable d'arriver à la certitude que Dieu existe. Mais de savoir qui est Dieu dans son mystère, c'est-à-dire le mystère de la Sainte Trinité pour nous chrétiens, ça non, je peux pas vous le prouver. Mais dit saint Thomas d'Aquin, ce qu'on peut prouver, c'est que les attaques contre cette vérité de foi sont des sophismes. Quand on va nous dire, non, en fait, vous êtes des trithéistes ou vous croyez en trois dieux. Non, on peut leur montrer que philosophiquement, l'idée d'un dieu qui est un par sa substance, mais avec une trinité de personnes, c'est pas absurde. Mais on peut pas le prouver. Vous voyez, c'est toujours que Dieu se soit fait homme. Je peux montrer que c'est pas absurde. Je peux montrer que même que c'est dans le plan de la sagesse divine, mais je peux pas le prouver. Il faut toujours bien distinguer ce qui est l'intelligence laissée à ses propres forces, et pour la vie morale c'est aussi très important, et l'intelligence qui est éclairée par la foi. Mais la foi, c'est pas un truc absurde. La foi, c'est dit saint Thomas d'Aquin, c'est une participation à la science même de Dieu. Au contraire, ça veut dire que la foi et l'intelligence est comme surélevée par la lumière de la foi. Mais elle atteint des êtres qui sont un peu fragiles. Nous, on n'a pas l'évidence. Et c'est pour ça que dans l'acte de foi, on est souvent aussi un petit peu branlant et ça ne fonctionne pas toujours très bien. Et on a aussi besoin de se convertir. Mais vous voyez, dans l'Église, il n'y a pas de question purement intellectuelle. C'est que toute vérité de foi entraîne justement un comportement moral. Et lorsque l'Église intervient, mais ça on va le voir quand on parlera de la sagesse politique demain, parce qu'il y a aussi une prudence politique, lorsque l'Église intervient dans le domaine, tout en respectant la sainte laïcité et tout ça, bon. Mais lorsque l'Église intervient dans ces domaines-là, elle ne le fait pas au nom, parce qu'elle est un groupe de pression, et que, comme n'importe quel groupe de pression, elle peut s'exprimer. Non, elle le fait toujours, tout ce que l'Église affirme est toujours justifiable d'un point de vue raisonnable, en matière de morale, j'entends. Et alors à la fois c'est fatigant, parce qu'il faut toujours l'exprimer, expliquer des raisons, c'est pas toujours reçu, on en fait bien l'expérience, mais... Voilà, le fait de ne pas manger de porc, on peut comprendre ça pour des raisons liées à l'histoire, mais on ne peut pas dire que c'est absolument raisonnable. Quoi. Si on croit que c'est Dieu qui l'a voulu, bon, c'est respectable, on se doit de respecter ça. Mais dans la perspective chrétienne, tout ce que nous avançons d'un point de vue, bon, même si par exemple le vendredi on va demander, mais là c'est pour d'autres raisons, on va demander de s'abstenir de viande par signe de conversion et de pénitence, mais vraiment sur les grands enjeux de morale, les enjeux sociétaux, lorsque l'Église s'exprime, c'est vraiment au nom de la vérité sur l'homme. Pas au nom d'abord de la révélation. C'est ça qui est... Parce qu'encore une fois, si c'est au nom de la révélation, tout le monde ne participe pas à cette révélation-là, tout le monde ne bénéficie pas de la grâce de la foi. Et donc on va dire, oui, mais ça c'est pour vous, c'est très bien, mais... Alors l'enjeu c'est de dire, non, mais faites fonctionner votre intelligence, et vous verrez bien que... voilà, et ça vaut pour le respect des personnes, de la conception à la fin naturelle, enfin c'est... Mais c'est très compliqué dans ces débats-là, parce que justement, comme on va le voir, on va tellement insister sur les circonstances d'ordre affectif, passionnel, il y en a de très réels, c'est pas du tout... donc de rappeler, de revenir un peu à l'intelligence des choses et de la réalité, c'est un apostolat qui est parfois un peu compliqué. Maintenant, je suis pas sûr non plus qu'il faille commencer par ça. Je pense que dans la mission d'évangélisation, vous n'allez pas d'abord à annoncer les 10 commandements ou même les vertus. Mais si quelqu'un rencontre vraiment le Christ, de cette rencontre, on le voit très bien dans l'Évangile, à partir du moment où Zachée accueille Jésus dans sa maison, eh bien, il s'interroge sur sa déontologie, on va dire, de l'inspecteur des impôts. Et ça lui amène des changements qu'il résume lui-même. Si j'ai volé, enfin, il dit pas qu'il a volé. Hein. Dans l'hypothèse où, eh bien, je rendrai, etc., je donnerai la moitié de mes biens aux pauvres. Donc il y a un comportement moral, mais qui est le fruit d'une rencontre. Et ça, on va dire, c'est le mouvement général de la foi. Est-ce que ça répond à... Voilà, alors je poursuis. Et justement, dans la tradition... l'organisation de la morale, selon les quatre vertus, donc tempérance, force, justice, prudence, c'est un héritage. Alors, on en trouve des traces dans la Bible. Mais justement... C'est très intéressant de voir que ça a été théorisé par Aristote, mais c'est aussi le fond commun de la sagesse du pourtour méditerranéen, spécialement la pensée stoïcienne, qui a beaucoup influencé l'élaboration de la morale chrétienne, et justement autour de ces quatre vertus, qu'on appelle aussi cardinales. Pourquoi ? Alors, le cardo cardinis en latin, c'est des gonds des portes. C'est-à-dire, ça veut dire que les vertus cardinales ou les vertus morales sont le pivot de toute notre vie morale. Et que d'une certaine façon, parce qu'il y a beaucoup plus que quatre vertus, mais d'une façon ou d'une autre, toutes les autres vertus se rattachent de manière organique, alors ça on le verra à propos de la vertu de justice, mais à une de ces quatre vertus-là. Dans la tradition spirituelle de l'Église, on trouve justement un enseignement très riche à propos de la prudence. Et cette prudence concerne, dès les premiers temps de l'Église, ben d'abord les moines qui veulent vivre le combat spirituel, qui suivent le Christ dans le désert. Et bien là, il y a, chez les pères du désert, il y a tout un enseignement sur cette prudence, hein, parce qu'il ne s'agit pas simplement de répondre à l'appel du Seigneur, comme le fit saint Antoine du désert, par exemple. Mais après, ben, il ne faut pas simplement répondre à l'appel, mais comment se maintient-on dans la fidélité? Et vous savez que saint Antoine est mort plus que centenaire. Donc comment il a construit cette vie de fidélité au Seigneur? Eh bien, entre autres, par l'exercice de la vertu de prudence. Et là, ça n'a rien à voir avec, effectivement, une version un peu bourgeoise. Non, comment se maintient-on fidèle à sa vocation? C'est aussi une vertu qui est très importante, la prudence, ben, pour les chrétiens de cette époque-là, qui parfois avaient à témoigner de leur foi jusqu'au don de leur vie, hein, le martyr. Eh bien oui, le martyr, dans certaines circonstances, ça peut être un acte de la prudence. Les pasteurs, hein, les évêques, les prêtres, tous ceux qui doivent diriger, il y a beaucoup de traités hein, qui s'adressent justement aux évêques, à ceux qui ont responsabilité d'âme, ben, comment vous allez conduire le troupeau qui vous est confié? Encore une fois, il ne s'agit pas de connaître simplement l'évangile, de savoir prêcher, hein, même si c'est une des missions principales des évêques et des pasteurs. Pas simplement, mais comment vous allez tout simplement ben, accompagner, diriger, réprimer quand il le faut le peuple de Dieu qui vous est confié. Ceux qui s'engagent dans le mariage, là, s'il y a vraiment une décision où la prudence doit intervenir, alors on peut tout à fait connaître un coup de foudre, mais se marier sur un coup de foudre, c'est très dangereux, là, c'est très très imprudent. Ça veut dire qu'il y a après l'exercice de la vertu de prudence, même s'il reste toujours quelque chose de mystérieux, hein, quand Montaigne s'interroge sur les raisons de son amitié avec la Boétie, hein, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Mais il n'empêche qu'il y a aussi une logique. Hein, si quelqu'un fait un état de vie et qui est incapable de justifier justement un peu raisonnablement, ben, il y a un peu danger dans la demeure. Dans le sacerdoce ministériel aussi, dans la vie religieuse. Par exemple, dans la règle de Saint-Benoît, alors, on ne parle ni de sagesse ni de prudence, mais il y a un terme qui est très important, qu'on appelle la discrétio en latin, la discrétion. Alors ce n'est pas simplement d'être discret sur ce qu'on vous dit, mais quelle est la qualité du père abbé? C'est la discrétion, c'est la prudence. Saint-Benoît, dans sa règle, prend l'exemple de quand Jacob s'est réconcilié avec son frère Ésaü, hein, ils avaient chacun leur troupeau, Ésaü est parti en avant, et Jacob a dit non, moi je me mets au pas du plus faible du troupeau. Hein, Saint-Benoît montre ça en exemple. Hein. Parfois on voudrait avoir un troupeau, si je puis dire, qui marche bien. Mais non, ben la règle de prudence, c'est de se mettre au pas de la brebis la plus faible. Alors il n'y a pas du tout un exposé sur la discrétion dans la règle de Saint-Benoît, mais vous voyez des tas de petites annotations hein, dans la manière d'exercer l'autorité. Vous voyez, par exemple, si le père abbé doit gronder un moine, parce qu'il le faut, quoi, il a mal fait, hein, donc il fait une bonne remontée de cale. Et puis après, il va dire à un des anciens du monastère, va aller consoler le frère Intel, parce que j'ai dû le gronder. Et surtout, tu ne dis pas que c'est moi qui t'envoie. Voilà. Ouais, c'est très, très caractéristique. On peut y voir à la fois le sens profondément évangélique. La règle de Saint-Benoît, c'est un des grands textes de la spiritualité occidentale. On peut aussi y voir, d'ailleurs, l'équilibre de la virtus, justement, parce que Saint-Benoît est un Romain, est très imprégné de culture romaine. Mais voilà, vous voyez, c'est un autre exemple, quelques siècles plus tard, les exercices de Saint-Ignace de Loyola. Qu'est-ce que les exercices? Ben, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est de mettre celui qui s'y soumet dans une situation où il va pouvoir faire un choix éclairé. Hein? Alors au début, on leur dit, ben, surtout prenez pas, parce que à un début d'une retraite, par exemple, on passe par des moments de consolation. Hein? On est devant le Saint-Sacrement et tout est merveilleux, on est dans l'amitié avec Dieu. Puis des moments de désolation, on a l'impression que le robinet de consolation justement est fermé. Bon. Et justement, Saint-Ignace dit, c'est surtout pas dans ces moments-là, ou de désolation, ou de consolation, qu'il faut prendre des grandes décisions. Parce que là, vous n'êtes pas maître de vous. C'est important d'en prendre conscience, mais surtout de vous dire, ben, vous êtes appelé à un au-delà, qui est la sainte indifférence. Alors, la sainte indifférence, c'est pas, je suis indifférent, je me fiche de tout. Mais c'est que je suis libre par rapport à tout. Et quand j'ai cette disponibilité-là du cœur, alors, ben, je suis capable d'entendre l'appel du Seigneur pour prendre une décision. Donc, vous voyez, chez Saint-Ignace de Loyola, il y a toute une pédagogie, en fait, de la prudence. Et ce qu'on va demander à celui, parce qu'on ne fait pas les exercices de Saint-Ignace, c'est juste avec le bouquin, hein, il faut quelqu'un qui vous guide et qui vous accompagne. Mais qu'est-ce qu'on va demander à ce directeur spirituel, justement, c'est la prudence. Alors c'est parfois un peu décevant, parce que justement, on voudrait avoir des réponses. Et puis ben, le vrai directeur spirituel, il ne vous donne pas de réponse, mais il vous dit, mais est-ce que tu as pensé à ça ? Voilà, donc c'est tout un... C'est à la fois un art, c'est aussi une science, mais c'est l'exercice d'une vertu, qui est la vertu de prudence. Et si le directeur ben, veut surtout... beaucoup d'abus spirituels dans l'Église, mais ça peut être une source d'abus spirituels, c'est effectivement de vouloir mettre la main sur son dirigé. Donc ça demande aussi de la part du directeur un très grand détachement et une très grande liberté. Et c'est aussi d'ailleurs ça qui donne la force éventuellement de dire des choses désagréables, quand on croit devoir le dire. Hein, ça veut dire que personne n'aime corriger ses enfants, personne... Bon, mais c'est justement par amour pour eux qu'on le fait. Voilà. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que c'est vraiment une réalité. Et aujourd'hui, dans la situation un peu difficile que connaît l'Église, et l'Église de France en particulier, moi j'en appellerai vraiment beaucoup. Je pense que ce dont nous manquons peut-être le plus, c'est justement la prudence telle qu'on va l'étudier un peu aujourd'hui. C'est dans les périodes de crise. Il y a trois types de mauvais chefs. Hein. Il y a les décérébrés, bon ça c'est ceux qui pensent à rien, et puis de toute façon, voilà. Il y a les invertébrés, qui peuvent... Alors, assez bien pensé, le point de vue intelligence, ça fonctionne bien, mais ils n'ont pas la structure morale de caractère. Hein, caractère étant la vertu des temps difficiles, comme vous le savez, pour tenir. Et puis, il y a les canards sans tête. Hein, les canards sans tête, c'est ceux qui, en temps normal, ça fonctionne à peu près. Puis, dès qu'on est dans une perspective un peu traumatisante, alors là, ça court dans tous les sens. Hein, et voilà. Donc je ne prends pas du tout un parti sur la situation que nous vivons aujourd'hui, mais c'est quand même très, très caractéristique. Quoi, hein, vous voyez, quand il y a des contestations, lui dire, écoutez, effectivement, on va discuter, on va... Non, non, on démissionne. Enfin, bon, ça, c'est des choses un petit peu étonnantes. Quoi. Voilà. Donc, c'est une invitation à être prudent, aussi, et surtout, il y a aussi une grosse difficulté, c'est qu'il ne faut pas cesser non plus aller au piège médiatique. Ça, c'était couru d'avance. Alors, c'est une chose qui m'agace aussi un petit peu, parce que je sais les sommes que les diocèses engouffrent pour leurs communicants. Hein, s'il y avait un truc de communication qu'il ne fallait pas faire, il ne fallait surtout pas réagir tout de suite. Je parle du rapport de la CIAS. Il fallait faire ce qu'on appelle une bulle de silence. Et de dire, puisqu'on avait la conférence des évêques qui avait lieu 15 jours après, il suffisait de se donner rendez-vous à ce moment-là, et tout le monde aurait très bien compris, ne serait-ce que pour dire, on a digéré, et puis... Mais là, le fait de se précipiter sur ça n'a pas raté, quoi. Donc, là aussi, enfin, c'est des choses, là, je dirais, prudentiellement, vraiment, de base, et il faut beaucoup de caractère. Alors, ce que je vous dis là n'est pas révélé. Hein. C'est, vous gardez tout à fait votre liberté par rapport à tout ça. Mais justement, pour en avoir parlé à quelques vrais communicants, c'est vrai que j'ai été très, très, très étonné, on va dire, de ce comportement et qu'il y a eu les résultats qu'on sait. Maintenant, le problème est beaucoup plus profond que cette simple question. Ah, mais ça, on va voir quand on verra la précipitation, le fait de ne pas voir les enjeux. Essentiellement, c'est un manque d'intelligence. Je te demande un manque d'intelligence pratique. Hein, ça peut être aussi, je pense, un manque de caractère quand on est velléitaire. Mais ça, je vous listerai demain en fin de conférence tous les péchés contre. Vous n'aurez qu'à faire votre choix. Et puis ça vous préparera à la confession. Bon, il vous reste quelques forces.
On n'est jamais trop prudent.
Ah oui, alors c'est ça. C'est une très bonne remarque. C'est pourquoi. Est-ce qu'on présente... Alors, vous savez, le catéchisme de l'Église catholique présente la morale non pas à partir des vertus, mais à partir des commandements. On le comprend bien parce qu'il y a une tradition dans l'Église qui est très profonde. Les gens qu'on prépare, par exemple, au baptême, les catéchumènes adultes, on leur demande effectivement de connaître la profession de foi, de connaître donc, le credo de la messe, de connaître la prière de Notre Père et de connaître les 10 commandements. Dans l'Antiquité chrétienne, d'ailleurs, la catéchèse sur les sacrements se faisait après le baptême. Ça, c'est aussi très, très intéressant. Hein, c'est après le baptême que l'évêque leur expliquait ce qui leur était arrivé. Hein, c'est assez étonnant. Bon, aujourd'hui on fait un package, on présente le tout, mais il y a une tradition effectivement parce que les 10 commandements, ça permet de baliser le chemin et voilà. Mais saint Thomas ne présente pas la théologie à partir des commandements et pourquoi ? Parce que les commandements, on peut les accomplir puis après c'est fini comme le jeune homme riche. Hein, mais ça, je le fais depuis que je suis tout jeune et Jésus ne le conteste pas. Mais il va lui manquer quelque chose. Va, vends tout ce que tu as et tu auras, et viens, suis-moi. Dans la vertu, on n'a jamais fini. Le commandement, on peut aussi l'appliquer pour de mauvaises raisons. Par peur du gendarme, pas, alors c'est bien, avoir un comportement moral, on va dire, c'est, mais ça ne nous fait pas grandir dans ce cas-là.
Non.
Ou parce qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà, ou par peur de l'enfer. Bon. En revanche, la vertu, si on pose des actes de vertu, on devient vertueux. Donc on n'a jamais fini, si je puis dire. Et pour la vie théologale, c'est encore plus vrai, c'est que même quand on est à Gaga Tutu, c'est-à-dire que nos organes ne sont plus là pour nous permettre obligatoirement d'exercer les vertus morales, hein, mais on peut toujours poser des actes de foi, d'espérance et de charité. Ça, c'est le secret de chaque personne avec son Dieu. Mais, et donc là, on n'a jamais fini, on est toujours dans un toujours plus, quoi. Voilà, ça. D'où l'avantage, enfin, c'est pour ça que ça me paraît plus pédagogique de présenter la morale à partir des vertus. C'est-à-dire des capacités spirituelles qui nous sont données pour que nous puissions accomplir notre finalité. Alors, juste un mot. Alors, pourquoi je vais vous parler, alors je ne vais pas vous présenter quand même la somme de théologie de saint Thomas d'Aquin, ce serait très imprudent. Je vais vous présenter demain en commençant, mais voilà. Retenez simplement que la somme de théologie de saint Thomas d'Aquin, c'est une biographie de Dieu. Une bonne biographie fonctionne toujours sur deux principes, Dieu, sa vie, son œuvre. Dieu, sa vie, ce qu'il est dans son mystère même, et son œuvre, c'est-à-dire à partir de la création. Et à partir du moment où on est dans la création, on est dans l'ordre du contingent. C'est-à-dire Dieu aurait très bien pu ne pas créer, et il lui aurait rien manqué. Et ça, je vais vous présenter un petit peu le plan demain, mais et justement, c'est un plan dynamique. Tout vient de Dieu, il y a le mystère même de Dieu, et après tout vient de Dieu et tout revient à Dieu. Et comment l'homme revient à Dieu? Eh bien, par l'exercice des vertus théologales et des vertus morales. Donc, nous sommes dans un dynamisme, en fait, de retour à Dieu. Donc, ce n'est pas un traité de morale, la somme de théologie, mais c'est, en fait, saisir l'ensemble du dessein divin, du mystère de Dieu et du dessein divin pour nous les hommes et pour notre salut. Alors, après, évidemment, la théologie va se spécialiser. Théologie, on va enseigner la théologie morale, la théologie pastorale, la théologie dogmatique, la théologie fondamentale, etc. Et c'est normal parce que nous, on n'est pas omniscient et surtout, on ne voit pas tout dans un comme Dieu justement d'un seul regard. Donc nous avons une intelligence qui a besoin de construire étape par étape. Mais toujours revenir à la synthèse, toujours revenir au fond à ce dessin, même si saint Thomas d'Aquin peut aller très loin dans l'analyse, des analyses très très précises sur l'acte humain par exemple. Mais il faut toujours le resituer dans cette aventure, en quelque sorte, du retour de l'homme vers Dieu. Voilà. Je termine juste sur la vertu de prudence. Donc, elle ouvre l'étude morale après la présentation des vertus théologales. Les vertus morales, donc, appartiennent à la nature de l'homme. C'est ce qu'on appelle des habitus. Alors, ça, c'est un terme technique, mais habitus, justement, il ne faut surtout pas le traduire par habitude. C'est exactement le contraire. L'habitude, c'est ce qui fait que vous vous rasez tous les matins de la même façon. Et donc, du coup, vous pouvez vous lever à 6h et vous vous réveillez à 7h. Parce que pendant une heure, vous êtes sur le pilotage automatique. L'habitus, c'est quand on a cette capacité spirituelle qui fait qu'on est de plus en plus conscient de ce que l'on fait. L'exemple type, c'est l'art. Quelqu'un qui a pu acquérir une véritable capacité à jouer du piano, eh bien, il est parfaitement. Si je puis dire, il joue pas par habitude. C'est qu'il a très conscience, il est très éveillé à son art. Mais il a dû se soumettre pendant des années et des années à un apprentissage. Et ça vaut aussi pour la vie spirituelle. D'ailleurs, si nous on voudrait avoir une vie de prière comme ça, d'un claquement de doigts, alors qu'on sait très bien que toute œuvre humaine, et la prière est aussi une œuvre humaine, mais si c'est une œuvre divine, suppose un apprentissage, suppose l'exercice des vertus. Alors quand on fait des gammes, c'est surtout on exerce surtout la patience de ses voisins, mais voilà. Et pour avoir cette liberté souveraine sur un piano, si je puis dire, un grand musicien, eh bien il a fallu se soumettre pendant des années et des années à une discipline, à une règle. Voilà, c'est enfin bon, il y a des gens comme Mozart, etc. Mais en général, c'est rarement. Quand on disait à Paul Valéry, quand est-ce que vous vient l'inspiration, elle répondait tous les matins quand je me mets à ma table de travail. Voilà. Donc c'est par ailleurs un poète génial. Voilà. Donc c'est aussi donc par l'exercice de ces vertus. Alors je sais que, et je terminerai pour le coup par là, un terme de prudence n'est pas bien compris aujourd'hui, puisqu'il va être synonyme souvent d'attentisme, d'inertie, de lâcheté, de peur d'agir. Je ne sais pas si vous connaissez le petit Percueil, homme politique de la Troisième République, père spirituel de Jacques Chirac, et c'est lui qui a sorti la loi du même coin là. Et c'est lui qui, vous savez, la loi de l'inertie. Je sais pas si vous savez, c'est ça. Il n'est pas de problème qu'une absence de solution ne finisse pas par résoudre. Bon. Alors bon, il peut y avoir en fait une certaine sagesse aussi derrière, hein, de pas trop. Mais voilà, hein, et donc certains comprennent la prudence comme ça. Saint Paul lui-même parlera bien de la prudence de la chair, selon Saint Paul, hein, Romains 8, 7. Mais il précise qu'il y a une prudence selon l'esprit. Et donc on est souverainement prudent quand on agit selon l'esprit. Hein, et c'est ça qu'on voit d'ailleurs dans la vie des saints. C'est que parfois ils font des choses un petit peu bizarres. Et on se rend compte qu'après, ben non, c'était effectivement ce qu'il fallait faire. Alors ça, c'est parce qu'ils obéissaient à un don du Saint-Esprit qui s'appelle le don du conseil. Mais j'en dirai un mot demain. Alors, la prudence, c'est agir selon la droite raison dans des circonstances particulières. Et donc, agir selon l'Évangile qui est la sagesse révélée de Dieu. Voilà, il n'y a rien de plus prudent que d'agir selon l'Évangile. Et donc, la prudence permet de dépasser aussi une morale qui ne serait qu'une morale de la conscience. Alors la conscience existe, hein, mais c'est purement spéculatif la conscience, c'est dans telle circonstance. Ben... Et aussi de se débarrasser d'une morale qui serait, justement, alors après on a abandonné la grande morale de saint Thomas d'Aquin pour tomber pour des raisons historiques, mais dans la pure casuistique, c'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit de... Hein, j'ai le droit de... Bon, c'est pas, mais quand même, je ne vais pas directement contre la loi de Dieu, donc je sais que ce n'est pas très bien, mais c'est tout à fait un autre regard que de se dire, oui, mais est-ce que ça me fait grandir? Alors, Jean-Paul II a beaucoup insisté dans ses livres Veritatis Splendor, justement, pour rappeler que la conscience est le principe de la loi objective morale, de l'objectivité de la loi morale dans nos cœurs. Parce que souvent aussi, on comprend là, ah ben oui, j'agis selon ma conscience. Ben, certes, on est responsable devant sa conscience, mais on est bien plus responsable de sa conscience, de la formation de sa conscience. Et dans la formation de la conscience, doit intervenir justement l'objectivité de la loi morale.
Mais justement, le péché, il naît de l'intelligence.
Enfin, à la fois de l'intelligence, c'est quand même plus notre sensibilité, notre volonté qui est atteinte par le péché que notre intelligence. L'intelligence de l'homme, elle arrive quand même à peu près encore à fonctionner. Alors, on n'a pas une intelligence angélique, voilà. Mais on est surtout atteint dans notre capacité à faire le bien. C'est ce que dit saint Paul, un malheureux homme que je suis, le bien que je vois, je n'arrive pas à le faire, et le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. Malheureux homme que je suis. Et c'est ça aussi dont le Christ est venu nous libérer. Et pour terminer juste avec une histoire de saint Thomas, saint Thomas, un jour arrivé dans un couvent, et il était en train de délire le prieur. Et bon, comme frère Thomas a une certaine réputation d'intelligence, il demande, ben, frère Thomas, qui il faut élire? Saint Thomas, il n'était pas un grand bavard. Hein, c'est un peu, bon. Et il lève une paupière, il fait, qui est le plus saint dans la communauté? Ah, ben là, le frère machin, on le voit en lévitation à 3 mètres dans la chapelle, enfin, il y a des extases, des machins, des trucs. On va les lire. Ça va... Non, non. Qu'il prie. Quel est le plus savant? Ah, ben le père machin, il connaît le latin, le grec, l'hébreu, il connaît toute votre œuvre, même celle que vous n'avez pas encore écrite. On va les lire prieur. Et saint Thomas fait, non, non, qu'il enseigne. Et dernière question de saint Thomas, quel est le plus prudent? Et là, parce qu'en fait, donc les frères, oui, boum, boum. Et puis, ah bah oui, tiens, le père, un tel, oui, alors bon, c'est sûr, c'était pas le premier à la chapelle et tout, c'est pas un excellent prédicateur, mais au moins, ce qui est chez Dominicain, c'est un peu, mais au moins, voilà, quand il donne un avis, justement, c'est toujours équilibré, il tient compte des personnes, des circonstances, oui, certainement lui le plus prudent, et saint Thomas finit qu'il gouverne. Voilà, c'est d'abord ce qu'on demande. Alors, s'il peut parier être saint et savant, c'est très bien. Hein. Mais voilà, ce qui est demandé à celui qui exerce autorité, c'est d'abord la vertu de prudence.